Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là ce matin. Ça fait un moment depuis la dernière fois que je suis parmi vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole. J'espère que vous avez passé un bon été. Quant à nous, c'était le cas. Beaucoup de voyages, les idées qui ont été changées et ça nous a fait du bien. Et maintenant, on pense à la rentrée et on est content pour la charge que Dieu nous confie pour cette année nouvelle, on y au moins année scolaire. Parlant de l'année scolaire, c'est vrai que vous allez connaître, surtout si vous êtes étudiant, en fait, vous allez être récipient de la pédagogie. En fait, la pédagogie, c'est quelque chose de très important dans l'enseignement. Et toute bonne pédagogie est censé aider à une application en phase avec la matière maîtrisée quelle qu'elle soit. Que ce soit la médecine, la cuisine, les maths, la chimie, l'architecture, les finances, et même la pédagogie elle-même, c'est pour en faire l'usage. Lorsqu'on suit un cursus, c'est plutôt pour pratiquer les principes acquis de manière active dans une vocation ou dans une carrière. Le message de ce matin, c'est le dernier sur l'épître aux Colossiens. C'est vrai que bon, ça fait à peu près un an et demi depuis que j'ai commencé la série avec vous. Bon, ça prend du temps parce que je ne suis pas là souvent, mais on va terminer l'épître aux Colossiens ce matin. C'est une étude, comme je vous ai dit, que j'ai commencé avec vous, je crois qu'il y a à peu près, oui, 18 mois. Mais ce matin, nous allons faire le point sur la matière du livre. Et ce dernier chapitre, le chapitre 4, est lié intimement avec l'introduction du lettre, et de la lettre, pardon. Rappelez bien que Paul, et peut-être ça fait un moment depuis le premier chapitre qu'on a vu ensemble, mais si vous lisez, et peut-être je pourrais vous conseiller de lire en fait toute l'épître pendant la semaine. Mais rappelez bien que Paul commence ses propos dans une attitude de prière. Il semble être inspiré par la façon remarquable dont se comportaient les Colossiens. Et si c'est le cas, selon Paul, c'est tout simplement à cause d'une connaissance, juste de l'Évangile. Une bonne connaissance mène à une vie pleine de bons fruits. Souvenez-vous de ce fruit de l'Évangile dont parle Paul au premier chapitre. Bon, ça fait un moment, donc je fais un petit rappel. Il s'agit de la foi, de l'amour et de l'espérance. Trois choses. Foi, amour, espérance. J'ai dit dans mon premier message sur cette lettre que c'est l'Évangile lui-même qui crée la foi, qui crée l'amour et l'espérance dans nos cœurs. Cela n'est pas surprenant, surtout que celui qui reste derrière tout acte créatif est celui qui est décrit dans cette même épître comme le premier-né de toute la création. Et nous voici devant ce dernier chapitre, et le moment est venu de voir le fruit de l'Évangile sur un autre angle encore. Et je commence avec les versets 2 à 6 du chapitre 4, et je vous invite à tourner vos Bibles à l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 2, nous allons lire jusqu'au verset 6, et nous allons terminer tout le livre ce matin, au moins ce chapitre-là. Paul dit ceci, « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut la répondre à chacun. Avant de continuer, nous allons prier ensemble. Je vous invite à la prière. Seigneur, pour toute compréhension juste, nous avons besoin de ton esprit qui comprend ta parole et qui peut vraiment nous faire connaître et savoir la profondeur de cette parole qui est transformatrice. Je te demande, Seigneur, par ton esprit de nous inspirer afin que nous puissions être à notre tour transformé ce matin par cette parole vraiment vivante. Nous te remercions pour la parole de vie, la parole par excellence de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, en son nom nous prions. Amen. L'évangile, la bonne nouvelle que nous chérissons, a deux côtés à la fois, comme une pièce. Un côté actif, et un côté passif. Le côté passif concerne la façon dont le salut a été acquis. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes rendus justes devant Dieu, mais par l'œuvre de notre personne. C'est par la justice active de Jésus que nous sommes déclarés justes. On se l'approprie par la foi, ce qui n'est pas une œuvre. Par contre, il y a un autre côté aussi de la bonne nouvelle et dont nous avons parlé tout au long de cet épître. C'est le côté actif de marcher dans la réalité de ce qui s'est opéré dans nos cœurs par la grâce de Dieu. Par la foi, nous recevons le salut gratuitement. Mais c'est aussi par la foi que nous nous revêtons, et j'utilise en fait les termes de l'épître, du nouvel homme. Cette foi-là est une foi tout à fait active. Et nous allons voir que dans les versets 2 à 4, Paul parle du fruit d'une foi active. Et quel est ce fruit d'une foi active? Le verset 2 à 4 nous parle de la prière persévérante. La prière persévérante est le fruit d'une foi active. La prière persévérante est le fruit d'une foi active. La prière ici dans ce texte est décrite comme persévérante. Elle veille dans une attitude de reconnaissance. Et si nous regardons de plus près le mot traduit par persévérer, nous verrons que ce mot a un sens très fort de quelqu'un qui fait une tâche sans relâche, de manière intense, malgré les difficultés qui surviennent. J'ai vu le film Luther, il y a quelques années, peut-être vous l'avez vu aussi. Il y avait une affiche, l'année dernière dans l'église. Et lorsque, vous savez qui est Luther, l'homme qui était vraiment la personne clé dans la réforme, de l'église. Et vous allez, si vous avez vu, vous vous souvenez de la parole, vous vous souvenez, en regardant le film, ce personnage de Luther qui est complètement, intense. Vous voyez un personnage qui ne sait pas jeter l'éponge, malgré les difficultés. Il était tellement convaincu par l'écriture et l'évangile qui s'y trouve, qu'il était prêt à tout perdre pour cette vérité. Paul nous exhorte à exercer notre foi par la prière. Mais pas n'importe comment. La prière, c'est un acte positif. Un acte façonné pour aller parfaitement avec la foi qui, quant à elle, est une réponse active et positive à la parole que Dieu nous adresse. Souvenez-vous de la parole que Jésus a adressée à Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau et que Pierre avait hâte de le rejoindre. Vous souvenez l'histoire dans l'évangile. Jésus l'appelle sur l'eau et Pierre répond. Et il commence à marcher sur l'eau. Mais il fallait juste quelques secondes pour que Pierre plonge. Il a regardé autour de lui. Il a été captivé par la peur quand il a vu le vent et les vagues. Vous savez, nous sommes souvent comme Pierre lorsque nous prions. Tellement nous voyons autour de nous les réalités rudes du cœur, des cœurs brisés, endurcis, indifférents, que nous devons peureux et pessimistes sur la possibilité de voir de réelles transformations et en nous et autour de nous. Mais la prière efficace n'est pas anéantie par des circonstances difficiles. Par contre, elle est reconnaissante, comme si elle est sûre d'avoir déjà ce qu'elle demande. Le fruit d'une foi active est une vie de prière qui sait à qui elle s'adresse et que celui-là peut tout, même l'impossible. Il l'a déjà fait. Il nous a déjà montré lorsqu'il a fait cela sur la croix et par sa résurrection. Donc, le fruit d'une foi active, la prière persévérante. Il y a aussi un autre fruit, le témoignage bienfaisant. Le témoignage bienfaisant que nous trouvons dans ce texte. Ce témoignage bienfaisant est le fruit d'une foi active. La foi active mène à un témoignage bienfaisant. Et c'est justement une foi qui n'hésite pas de demander des occasions pour annoncer l'évangile dans sa profondeur. Vous savez, Paul demandait la prière non pas pour que sa condition s'améliore, il est en prison, vous vous souvenez, non plus pour qu'il soit libéré, mais son souci constant est de vouloir annoncer le mystère de l'évangile, c'est-à-dire la réalité qu'en Christ, le mystère d'une vraie vie avec et pour Dieu est maintenant révélé dans l'évangile et possible à tous ceux qui croient. Le souci de Paul est de pouvoir annoncer cette nouvelle de manière juste et surtout qu'il est dans les chaînes. Quel portrait de l'état du croyant dans ce monde déchu. L'état de Paul, emprisonné et pourtant libre. Et nous, dans ce monde, nous sommes parfaitement libres et pourtant conscients de la réalité qui lie ce monde dans l'incroyance. Y a-t-il une issue pour nous? Bien sûr que oui. L'expression d'une foi active dans la prière afin que les portes s'ouvrent et que la parole de l'évangile soit connue et comprise. Quelle est la nature de notre prière quant à l'annonce de l'évangile? Je vous pose la question, quelle est la nature de notre prière? De quelle façon prions-nous quand nous pensons à cette annonce de l'évangile? De façon audace, ardente? Je vous laisse la question. Un autre aspect d'une foi active pour un témoignage bienfaisant concerne le comportement de ceux qui croient. Paul exhorte les croyants et deux choses primes dans ce texte, à savoir la sagesse et la saveur. D'abord, un mot sur la sagesse. Il s'agit de sagesse envers les gens de l'extérieur. Se conduire dans le monde tel quel, avec les convictions qui vont à son encontre, n'est pas facile, vous savez tous. D'une part, ce n'est pas facile dans le sens où l'on est attiré par les comportements qui s'y trouvent de par notre ancienne nature. D'autre part, parce que le message que nous annonçons sonne fausse ou faux chez ceux qui ne croient pas. N'est-ce pas? C'est un véritable dilemme des deux côtés, internellement, extérieurement. Mais un dilemme avec une solution pour vous que l'on comprenne les enjeux. Il y a beaucoup de chiens en France. Vous allez demander, mais qu'est-ce qui va? Où va-t-il? Il y a beaucoup de chiens en France, vous êtes d'accord? Je crois qu'il y a à peu près 10 millions. Lorsqu'un chien nous connaît, on est rassuré, n'est-ce pas? Mais croisez un chien qui ne vous connaît pas et vous avez de quoi vous inquiéter. Croyez-moi qu'il les croise souvent quand je fais la marche dans les monts d'or. Il y a certains qui ont essayé même de me mordre, mais j'ai quand même une stratégie. Trois choses. Je reste confiant, je bouge lentement face à un chien et je me garde de les regarder droit dans les yeux. Un chien peut sentir la peur et cela peut le déstabiliser au point où il n'est pas sûr de nos intentions. La peur est souvent liée à un comportement agressif chez le chien et notre peur de lui et sa peur, sa propre peur de nous, parce qu'il n'est pas sûr de ce que nous allons faire. La sagesse nous dit, face à un chien inconnu, de se comporter de façon à ne pas le provoquer davantage, n'est-ce pas? La sagesse nous dit aussi de nous renseigner avant qu'on le croise et peut-être même de prévoir quelques biscuits pour chien afin d'apaiser sa peur de nous. Une prise de conscience des enjeux mène sur une voie de sagesse. La bonne application de la connaissance. C'est ça, la sagesse, la bonne application de la connaissance. Paul, bon, je reviens maintenant, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette illustration-là? Paul est conscient des enjeux du témoignage. Dans un monde hostile à l'Évangile, il est en prison à cause de ce témoignage. Quand il exhorte à une conduite avec sagesse, il le fait en parfaite connaissance de cause. L'efficacité de notre témoignage dépend de notre compréhension des enjeux et la façon de nous y prendre dans un contexte où la peur et la fausse information mettent nos contemporains sur leur garde. Voilà pourquoi Paul parle de l'importance de la saveur de notre parole. Cette saveur pourrait rassurer ceux qui ne sont pas sûrs de nos intentions. Notre sel doit être, du coup, savoureux. Vous savez, le sel sert d'ingrédient de base dans toute la cuisine, que ce soit de la haute ou moins haute. Le sel donne goût et donne soif. Il préserve et il est connu même d'être aussi médicinal, voilà. En fait, ça concerne la médecine, bien sûr. Il y a un poète libano-américain qui a écrit ceci. Il a dit, « Il doit y avoir quelque chose de sacré dans le sel. Il est dans nos larmes et dans l'océan. » Et nous étions en Bretagne cet été, et je vous dis, quand on regarde l'océan, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa grandeur, c'est vrai que c'est quelque chose. Le sel fait partie intégrale de la vie, de nos cœurs, de l'océan, de la vie en général. Il est quasiment ubiquitaire. Paul exhorte que notre parole soit toujours assaisonnée de sel pour une raison précise. Notre conduite différente pourrait susciter des questions importantes sur la vie. La manière dont nous répondons est une occasion de créer et donner soif chez ceux qui nous les posent, ces questions. La prière est vitale pour que les portes s'ouvrent au témoignage, mais pour témoigner, il faut des paroles, il faut parler. La saveur de notre réponse, de notre parole, doit être en phase avec notre conduite. Et cela servira d'attirer l'attention sur le vrai sens de l'Évangile et son réel impact sur la vie. Et la question que je vous pose, deux en fait, sommes-nous prêts à répondre de façon appropriée lorsque l'occasion se présente après que les gens voient le sel de notre vie? Nos vies donnent-elles envie afin que les gens se posent la question sur leur vie? Je vous laisse méditer ces questions-là. En les méditant, l'on pourrait se trouver découragé, surtout que sa conduite et ses paroles ne semblent pas toujours à la hauteur. Je parle pour moi-même aussi. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une raison pour se taire. Pourquoi? Parce que l'Évangile, selon le texte, est une question aussi de grâce. Paul exhorte d'abord que notre parole soit pleine de grâce. Lorsque nous annonçons l'Évangile, nous le faisons imparfaitement. Et pourtant, c'est exactement la réalité de nos manquements qui élève l'importance de la grâce suffisante de Dieu malgré ses manquements. Lorsque les gens voient notre dépendance de cette grâce malgré nos fautes, Il y a là un sel qui donne soif parce que cela donne l'espoir de pouvoir être aussi bénéficiaire d'une faveur non méritée. Cette faveur dépend d'un sauveur. Et nous pouvons parler de ce sauveur. La parole qui s'est faite homme. Il a habité et s'est conduit de façon parfaite parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous ne témoignons pas de nous-mêmes, mais de lui. C'est ça l'évangile. C'est pas nous. C'est pas la façon dont Dieu a changé ma vie. Ça, c'est pas le témoignage biblique. Le témoignage biblique, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il donne la vie à tous ceux qui croient. Quand notre parole est basée sur lui, sur Jésus-Christ, notre témoignage sera toujours efficace, malgré les ressentis que nous avons au cours de la vie. Le fruit d'une foi active est une foi qui sait répandre en toutes circonstances avec des propos assaisonnés par la vérité de l'Évangile. C'est une foi qui est active dans la prière. Mais il y a un autre fruit que porte la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le fruit de l'amour qui s'exprime au sein de l'Église. Et nous allons lire les versets 7 à 18 pour voir ce fruit-là. Le fruit de l'amour. Chapitre 4, verset 7. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Epaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'Église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Voici dans ce texte un amour qui découle, un amour ardent qui découle. Ce texte découle d'une expression tangible du fruit de l'amour que porte l'Évangile. Simple à décrire, mais moins simple à le vivre, et pourtant le texte nous met devant l'évidence que lorsque l'Évangile est compris, l'amour les uns pour les autres dans l'Église en est un résultat net. Deux choses à signaler quant à cette expression d'amour fraternel. D'abord, l'échange authentique est le fruit de l'amour, les versets 7 à 9. L'échange authentique est le fruit de l'amour. Paul n'hésite pas il n'hésite pas du tout de faire savoir ce qui se passe chez lui. Le fait qu'il insiste nous donne un indice de la façon dont l'Église de Colosse le voyait. Il n'est pas même à l'origine de cette Église et pourtant, les liens qui sont tissés sont forts. Peut-être c'est dû à la justesse de son enseignement et qualité, ou de la qualité relationnelle dont il jouissait avec les membres de cette église qui se trouvaient avec lui pendant son emprisonnement. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait le désir ardent d'échanger les nouvelles les uns avec les autres, et cela de façon ardente. On le voit dans le texte. Tout le monde a ce souci de partager les fardeaux et de parler les uns avec les autres. Ce souci de partager nos fardeaux, de nous informer les uns sur les autres. Est-ce que cela nous préoccupe? Est-ce que cela fait partie de ce que nous faisons en tant qu'Église? Partager ce qui nous rend heureux, ce qui se passe, tout simplement. Avons-nous le souci, ce souci les uns pour les autres tous les jours? Tellement la vie est chargée, tellement on est distrait, parfois même souvent par des choses avec une importance même douteuse. On préfère tellement s'isoler pour ne pas porter les fardeaux des uns des autres que nous négligeons de permettre à l'amour de grandir entre nous et les liens de se tisser davantage. Nous habitons dans une société qui s'isole assez facilement. Ce texte nous interroge sur l'authenticité de notre échange et la façon dont nous partageons nos joies et nos peines. Et le fruit de l'Évangile, c'est l'amour. Et dans ce contexte, l'amour fraternel, l'échange se passe. Vous pouvez être sûr que là où l'amour se manifeste, l'Évangile a pris racine. C'en est un fruit. Une église avec un amour qui s'exprime ainsi, c'est une église en bonne santé. Remarquez aussi les salutations nombreuses du verset 10 à 18. Tout le monde se salue. Tout le monde veut faire signe de leur amitié et leur pensée et leur affection quant à leurs frères et sœurs en Christ, quelle que soit la distance qui les sépare. Je vais vous faire part d'une expérience que je trouve rigolo, peut-être vous trouverez aussi. Et vous allez demander pourquoi j'utilise cette illustration encore une fois, je crois. C'est une distinction entre la culture américaine, j'ai passé quelques semaines aux États-Unis cet été, et la culture française. Lorsque je fais de la marche rapide ici en France, et aussi quand je suis aux États-Unis. Quand je le fais en France, c'est rare que les gens que je ne connais pas me saluent sur le chemin. Ceux qui le font, il y en a qui font cela, et que je ne connais pas, sont plutôt les gens qui font du sport comme moi lorsqu'on se croise. Vous avez peut-être expérimenté cela. Mais quand je marche en Pennsylvanie ou dans le New Jersey, par exemple, dans les quartiers respectifs de nos familles, tout le monde que je croise a tendance de me saluer, même s'ils sont loin, même s'ils sont dans leur voiture. Tout le monde que je croise a tendance à me faire signe, même les personnes que je ne connais pas du tout. C'est intéressant, n'est-ce pas? En France, ça ne se passe pas. Beaucoup font un petit geste alors qu'ils ne me connaissent pas. Mais c'est intéressant de contempler la différence entre les deux possibilités, ici en France et aux États-Unis. En réfléchissant, ce qui fait la différence, c'est en fait justement le lien commun qu'on se partage. Ce lien est là dans les deux contextes, bien que l'expression soit différente. Pour les deux, la salutation dépend de ce qu'on partage. Ici, quand on fait du sport ou la randonnée, et on se salue sur la base de ce que l'on apprécie mutuellement, même si on ne se connaît pas. Donc ça se fait. Aux States, on se salue sur la base de ce qu'on est du même quartier. Donc se saluer, ou saluer quelqu'un qui fait un footing alors qu'on est en train de tendre la pelouse, c'est un geste de courtoisie dans le quartier, envers son voisinage, ce qui ne se fait pas ici. Mais le lien est le même, c'est ce qu'on partage ensemble qui nous lie. Où vais-je avec cette illustration, vous demandez? Je m'en sers tout simplement pour renforcer l'importance des liens qui nous unissent. Les liens qui nous unissent. Il y a une grande différence entre un geste basé sur une commune appréciation et une courtoisie polie, et un geste ancré dans l'amour. Le geste dans ce texte est rempli d'amour. D'un amour ardent, et cela fait toute la différence pour le vécu d'une église. Et la question est, comment savoir qu'il s'agit de cet amour ardent? Comment savoir qu'il s'agit de cet amour ardent dans ce texte? Le verset 10 à 14 nous montre que on le sait parce que les gestes qu'on voit les uns envers les autres, ce sont les gestes sacrificiels. Les gestes sacrificiels montrent le fruit de cet amour. La manière dont les uns les autres se donnent dans ce texte est remarquable. Prenez par exemple Épaphras au verset 12 et 13. Il se donne sans réserve pour le bien des frères, ceux qui sont à Colosse et ailleurs. Il y a Tychique, il y a Onésime, Aristarque, Marc, Justus, Luc, Nymphas, Archippe, tous sont impliqués de manière dévouée. Dans le cas d'Archippe, peut-être, c'est au verset 17, peut-être juste au point d'être épuisé, d'où la parole de Paul à son égard pour l'encourager. Nous voyons dans ses engagements un amour ardent, qui n'est pas seulement un simple geste de courtoisie, mais basé sur un amour fraternel, qui est un amour selon celui du Sauveur. Lui qui s'est donné jusqu'à sa vie en notre faveur pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. La connaissance de l'Évangile porte le fruit d'un amour sacrificiel. Ce fruit que porte un détenu comme Paul, qui malgré ses chaînes ne pense qu'aux communautés naissances dans les villes citées, en est un exemple. Le fruit de l'Évangile, c'est un amour dévoué. Vous pouvez être sûr que là où cet amour se manifeste, l'Évangile a pris racine. Une église avec un amour qui s'exprime ainsi, c'est une église en bonne santé. Il y a un dernier fruit de l'Évangile, et avec lui, nous terminerons notre réflexion sur cette lettre. C'est le fruit d'une espérance ancrée. Le fruit d'une espérance ancrée. L'espérance de l'Évangile, le mot de conclusion, se trouve ultimement où? Au ciel. C'est-à-dire là où la réalisation la plus complète du projet de Dieu se révèle et se révélera. C'est l'espérance avec laquelle Paul a commencé ses propos quand il s'adresse à l'église à Colosse. Et c'est avec cette espérance que je termine mes propos en vous adressant l'église de la rue Masnaud. Entre le maintenant et ce qui nous attend, nous y voyons, bien sûr, de manière floue, mais nous y voyons véritablement tout de même. Et là, au centre de ce que nous voyons, c'est l'Église qui, quant à elle, est au centre du projet que Dieu forme sur nous pour nous préparer à l'espérance céleste. Et Paul dit d'ailleurs, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Appliquons-nous donc à un amour sincère les uns pour les autres dans l'Église de Jésus-Christ, et cela en vue de l'espérance de la gloire qui nous attend. Prions. Merci Seigneur pour l'Évangile, cet Évangile qui crée l'amour, l'espérance. Seigneur, cet Évangile qui crée la foi. Fortifie, Seigneur, notre foi, afin que nous vivions pour toi de manière ardente, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent, afin qu'ils